Radio de la Paix, la grande interview.
Ben Diakité.
Bonjour à tous. La Côte d'Ivoire a décidé de booster sa production aquacole et consomme un peu plus de 650 000 tonnes de ressources halieutiques par an. Toutefois, 90% de ces ressources sont importées. En chiffres, ce sont un peu plus de 400 milliards de francs CFA qui sont consacrés aux importations. Comment à relancer la production en national? Comment favoriser l'émergence des aquapreneurs dans le secteur sans omettre la création des emplois pour les jeunes et les femmes pour ce secteur à forte potentialité? Ce sont entre autres préoccupations que nous allons soumettre à M. Modibo Samake. Il est le coordonnateur général du PS TACI, entendu le programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire.
Radio de la Paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.
Monsieur le coordonnateur général, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être dans nos studios ici même à Radio de la Paix. Avec vous, nous allons parler de ce secteur, le secteur donc de l'aquaculture. On entend aquaculture, mais est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi l'aquaculture ?
Bien sûr. Tout d'abord, je voudrais vous remercier, M. Diakité, pour cette invitation que vous avez bien voulu me faire pour intervenir sur le PS-TACI, un programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Je voudrais aussi prendre cette occasion pour remercier M. le ministre, Sidé Timoko Touré, pour son indéfectible soutien à notre programme. Il ne relâche jamais et il est toujours là quand nous avons besoin de quelque chose. Donc vraiment, merci, Monsieur le ministre, pour toute son aide et sa sollicitude. L'aquaculture peut être définie tout simplement par la culture d'organismes aquatiques, comme les poissons, crustacés, mollusques, crevettes, etc., communément, comme que nous connaissons, et aussi les plantes aquatiques. Elle se distingue de la pisciculture, parce que c'est une question qui revient très souvent, aquaculture, pisciculture. La pisciculture, c'est l'élevage de poissons, tout simplement. Donc l'aquaculture englobe plus large, plusieurs espèces et également des plantes aquatiques.
Alors, vous êtes à la tête donc de ce programme-là, le programme que vous avez bien défini de transformation de ce secteur-là. Quel est aujourd'hui l'état de lieu de ce secteur?
Alors, l'état des lieux, vous l'avez dit dans votre introduction, la Côte d'Ivoire consomme plus de 650 000 tonnes de poissons. C'est une consommation qui est très élevée. Lorsqu'on fait un ratio par rapport à la population, nous sommes à 24,9 kg par habitant par an. Ce qui nous fait une proportion de consommation de poissons très élevée. D'ailleurs, l'une des plus élevées au monde. Donc, la Côte d'Ivoire est un gros consommateur de poissons. Toutefois, la production locale en matière d'élevage n'excède pas 6300 tonnes. La pêche et la production aux alentours de 100 000 tonnes. Donc vous voyez qu'il y a un écart très important entre ce que nous pouvons produire, des produits issus de l'élevage ou même de la pêche, qui n'arrivent pas à combler le besoin national en poissons. Donc voici l'état des lieux que nous avons aujourd'hui en ce qui concerne l'aquaculture.
Pourquoi cette situation? Quand on regarde la Côte d'Ivoire qui est suffisamment arrosée par les eaux, comment on peut expliquer ça?
C'est un paradoxe. La Côte d'Ivoire regorge de fleuves, de lacs, de barrages. Plus de 2000 km² de barrages et d'eau. Mais tout à fait, on ne produit pas assez. Bon, il y a plusieurs raisons. Les Ivoiriens n'ont pas la culture de l'aquaculture en tant que telle.
Que face à cette situation, quels sont donc vous qui avez en charge donc le programme, vous qui travaillez sur la politique de transformation de tout ce secteur-là, quels sont les défis pour vous et les priorités dans ce cas?
Les défis sont nombreux. Il faut d'abord sensibiliser l'Ivoirien au potentiel de l'aquaculture. Ça, c'est la première des choses. Mm-hmm. C'est une activité qui est très rentable. Donc, nous devons, dans un premier temps, sensibiliser l'Ivoirien. Vous voyez, nous avons un potentiel hydrographique important. Les opportunités sont là. Tout est une question de demande et de l'offre. On peut bien constater qu'en matière d'importation, le poisson est la deuxième denrée la plus importée après le riz. Donc, il s'agit là d'une opportunité pour l'Ivoirien. Donc, dans un premier temps, nous travaillons vraiment à sensibiliser. Notre objectif ultime, c'est d'augmenter la production locale. Vous voyez, de manière à ce que nous puissions sortir de cette importation, sortir de cette devise, cette richesse de la Côte d'Ivoire que nous envoyons ailleurs. Imaginez si nous captions les 400 milliards ici, localement, ce que ça peut faire pour notre économie.
Alors, monsieur le coordonnateur Samaké, dans vos explications, j'ai cru entendre, si je me suis trompé, il faudrait bien me rectifier, c'est que on a à peu près 105 000 tonnes de production nationale, à la fois produits de pêche comme élevage. Et dans ces 100 000 tonnes, on regarde, c'est qu'il y a peut-être moins de 10% par rapport aux chiffres que vous donnez. Vous parlez de 6 000 à peu près. Je peux même dire 10 000.
1%.
Mais 1%. Donc, ça veut dire que c'est la pêche qui fournit le gros stock.
Tout à fait.
Mais est-ce que si on met l'accent sur l'élevage, parce que statistiquement, on se rend compte que c'est la pêche qui donne, qui produit plus. Pourquoi on ne met pas directement l'accent sur la pêche, c'est-à-dire donner des filets et créer des écoles pour que les gens partent rapidement aller pêcher en mer? Pourquoi on résolve cette question? Qu'est-ce qu'il dit? On va former des éleveurs. Puisque leur part là, c'est si petit que ça, par rapport à ces défis que vous venez de souligner.
Effectivement, c'est une possibilité. Mais vous voyez, au fil des années, la pêche a démontré ses limites. Pour plusieurs raisons. Il y a déjà la question de la surpêche. Nous pêchons tellement que nous ne donnons même pas l'opportunité aux espèces de se renouveler. À titre d'exemple, le mois d'août dernier, je pense que c'était même le mois de juillet, le ministère des Ressources animales et halieutiques a dû fermer la pêche industrielle et la pêche artisanale pour une période pour permettre justement aux espèces de se renouveler. Donc la pêche en elle-même ne pourra pas combler ce besoin. Donc la seule chose qui nous reste à faire, la meilleure chose qui nous reste à faire, c'est de pouvoir augmenter notre capacité de production à travers l'aquaculture, vu qu'on ne veut pas continuer à importer.
Est-ce que c'est possible dans votre vision, ou bien est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il existe des États où la production telle que vous dites à partir de l'élevage est plus importante que la pêche dans les eaux internationales? C'est quoi la tendance en réalité?
La tendance est vraiment à l'aquaculture. Vous avez des pays comme la Chine, le Vietnam. D'ailleurs, c'est à partir de ces pays-là que nous importons la plupart de notre poisson. Mais ces pays, aujourd'hui, au regard de leur population, ont pris l'aquaculture comme mécanisme pour assurer justement la fourniture en protéines pour leur population. Donc c'est ça la tendance. C'est ça la tendance et la Côte d'Ivoire est aujourd'hui l'opportunité d'être parmi les leaders en Afrique à travers son... Non seulement on est béni par un potentiel hydrographique, mais en se lançant dans l'aquaculture, on a tout ce qu'il faut pour devenir un des leaders en aquaculture pour l'Afrique.
Alors vous, dans votre présentation récemment, dans une rencontre avec les hommes des médias, vous avez parlé de plus en plus vers l'appel ou l'intégration du secteur privé dans ce secteur-là de l'aquaculture. Alors le secteur privé qui vient dans l'aquaculture, c'est pourquoi faire? Puisque c'est une activité, comme vous l'avez dit, traditionnellement, les gens vont pêcher, on voit les pirogues partout sur les eaux ivoiriennes, des gens en train de pêcher. Quel est l'intérêt pour un industriel de rentrer dans ce secteur-là? Qu'est-ce qui peut me motiver, moi, à venir investir dedans?
D'abord, l'aquaculture est une solution pour la sécurité, voire même la souveraineté alimentaire. Alors, la période de Covid nous a appris des leçons. Pendant la COVID, vous avez vu que beaucoup de pays ont fermé leurs frontières et n'exportaient même plus leurs ressources. Donc pour aujourd'hui, pour nous, nourrir notre population de manière saine est une question de souveraineté. Donc voici déjà la première opportunité. Deuxièmement, la Côte d'Ivoire s'est donnée comme une vision, la vision 2030, celle de faire le secteur privé le moteur de croissance de notre économie. Alors, l'aquaculture est une activité génératrice d'emplois et de revenus. Donc, quoi de plus pour qu'un secteur privé puisse y donner? Donc, pour pouvoir atteindre tous ces objectifs que nous nous sommes fixés, notamment ces enjeux, créer des emplois, réduire la pauvreté, mais aussi nourrir notre population. Donc, c'est le secteur privé qui va investir. L'État vient en accompagnateur, l'État vient en soutien. Vous savez, quand on a fait la vision Côte d'Ivoire 2030, il était question d'identifier des secteurs porteurs de croissance. Alors, l'aquaculture est un secteur prioritaire qui peut juste faire cela. Et également, le secteur privé peut se lancer dans cette activité. L'État en chef d'orchestre organise, crée les conditions et le secteur privé produit.
Aujourd'hui, vous dites, oui, c'est un secteur qui est porteur, mais quels sont les éléments objectifs que moi j'ai, par exemple, pour dire que si je mets mon argent, ma bille, que c'est sûr que j'ai retour là-dessus.
Très bonne question. Je vous donne quelques chiffres, de ce que nous avons pu expérimenter. Alors, pour produire un kilo de poisson en élevage, ça vous coûte à peu près 1200 à 1500 à cause du coût de l'aliment. Et c'est ce que ça vous coûte sur une période d'environ 4 à 6 mois. Mais ce poisson d'un kilo, vous pouvez le vendre borchon, 2500, voire 3000. Donc, vous voyez déjà le revenu que vous faites, le bénéfice que vous faites de prime abord. Donc, pourquoi ne pas se lancer? C'est le mode d'élevage le plus rentable. Si vous comparez, par exemple, au secteur avicole, le poulet, bon, la marge bénéficiaire est assez faible. Mais sur le poisson, la marge bénéficiaire est très importante. En plus de cela, l'Ivoirien a un appétit pour le poisson frais. Vous savez, on a les poissons importés. Si vous en avez mangé, vous connaissez la différence de goût. Le goût n'est pas le même du tout entre un poisson importé et le poisson d'élevage. Donc, le poisson d'élevage, lorsque les gens savent que c'est du poisson d'élevage et qu'il est frais, mais les gens sont prêts à payer un peu plus. Ouais. Donc, la marge bénéficiaire est importante. Et pour moi, c'est l'une des raisons pour se lancer dans cette activité.
Alors, récemment, vous étiez à Boaké. On a vu que vous étiez à Boaké, dans la région donc, du Bekaa, pour des activités. Vous étiez allé à Boaké pour quoi faire, monsieur le coordonnateur?
Alors, ce qu'il faut noter, c'est que le programme est doté de... Bon, le programme se repose sur quatre piliers, essentiellement. Je vais le dire de manière rapide et vous allez comprendre pourquoi j'étais à Boaké. Le premier pilier, c'est que nous avons à opérer un plan de transformation. Il s'agit là de corriger toute la chaîne de valeur pour que tous les défis qui se posent à nous vis-à-vis de l'aquaculture, de ce secteur, puissent être levés et que tous les membres de la chaîne puissent fonctionner. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle ce sont les sites de démonstration. Donc, on est appelé à mettre en œuvre des sites de démonstration qui sont des lucarnes sur l'aquaculture. On n'a pas la culture de l'aquaculture. On ne sait pas ce que c'est. Donc, l'État, nous-mêmes, nous investissons. Nous avons fait des investissements et nous nous sommes appuyés sur les investissements que l'État avait fait depuis les années 70. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, nous avons deux sites de démonstration qui sont des mécanismes où nous pouvons former des gens, où nous pouvons justement mettre en œuvre ce plan de transformation et démontrer à la population ivoirienne ce que c'est que l'aquaculture et une chaîne de valeur qui fonctionne. Le troisième pilier, c'est le renforcement institutionnel. Donc, ça, c'est la part de l'État où nous encadrons le secteur, la qualité, les agréments, la formation, enfin tout un ensemble qui relève du rôle régalien de l'État pour créer un environnement propice au développement de l'aquaculture. Et enfin, c'est la communication, la vulgarisation, dont l'activité d'aujourd'hui qui cale bien dans ce dernier pilier. Alors, nous étions à Boaké parce que c'est à Boaké se trouvent nos sites de démonstration. Nous avons un à Boaké à la Loka et l'autre à Tibissou. Alors, nous y étions parce que nous, depuis que le programme a été créé, à peu près un an et demi de cela, nous avons fait beaucoup d'activités de formation et nous étions à Boaké pour appuyer certains acteurs de la chaîne de valeur, des aménagistes, les marieurs, et leur fournir des équipements qui leur permettraient de s'intégrer valablement dans la chaîne de valeur.
Alors, sur cette question des acteurs de la filière de l'aquaculture, nous allons revenir. Il y a beaucoup de défis qui se posent, notamment la question donc, de la formation, l'intéressement des jeunes, parce qu'en lisant vos documents, j'ai vu que l'une de vos priorités, c'était les jeunes et les femmes, trouver de l'emploi aux jeunes et les femmes en développant, bien entendu, ce secteur. Mais au-delà de ça, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les jeunes Ivoiriens s'intéressent à ce secteur, vous qui les côtoyez, est-ce que vous sentez qu'ils viennent vers vous, qu'ils sont intéressés par ce secteur, ou bien c'est peut-être quelques cadres des grandes villes qui sont dedans?
Très bonne question, bonne question. Aujourd'hui, je pourrais vous dire que ce sont des cadres, c'est un mix. Vous avez des cadres, vous avez des jeunes, mais l'élément déclencheur, c'est la sensibilisation d'abord. Okay. Vous voyez, quand on ne sait même pas que c'est un secteur qui existe, on ne sait même pas que c'est un débouché. Nos jeunes ne sont pas suffisamment sensibilisés sur les débouchés que représente l'aquaculture. Et c'est ça notre rôle. Notre rôle, c'est de leur transmettre cette information pour dire, jeunes, ne regardez pas simplement, je vais travailler dans un bureau, ou bien je vais rentrer dans la fonction publique, c'est là que je vais gagner de l'argent. Regardez aussi d'autres secteurs productifs. Et l'aquaculture est un secteur. Ce n'est pas le genre de secteur où on vient, on est simplement entrepreneur. C'est un secteur où on peut y faire une carrière, une vocation. Et notre rôle, c'est de sensibiliser à ces débouchés, ce que ça représente. Ouais. Donc aujourd'hui, effectivement, je pense qu'il y a un intérêt. Il n'y a pas une journée où moi ou mes collaborateurs ne sont pas sollicités par rapport à l'aquaculture. Ah mais tiens, j'ai un banc de terre ici. Ah oui, l'aquaculture, c'est un sujet qui m'intéresse. Mais les gens ne savent pas comment l'aborder. Ils ne savent pas comment démarrer. Ouais. Donc c'est ce que nous avons joué. Et notre rôle, c'est d'abord un rôle d'éducation. C'est quoi l'aquaculture ? Comment démarrer ? Comment ça se passe ? Que faut-il faire ? Il faut être formé, il faut comprendre. Ne se lance pas dans l'aquaculture qui veut. Hein. Il faut bien entendu se renseigner, il faut se faire former. Mais une fois que vous êtes formé, je vous rassure, hein, à la base, moi-même, je ne suis pas aquaculteur. Mais dès que j'ai eu vraiment l'appui des autorités pour lancer ce programme, mais très rapidement, j'ai appris c'est quoi l'aquaculture. Aujourd'hui, c'est un secteur passionnant.
Est-ce que toutes les eaux sont favorables, sont utilisables pour faire l'aquaculture? Je parle des eaux qu'on a, les fleuves, ou bien parfois ce que nous-mêmes nous créons. Est-ce qu'on peut faire l'élevage avec toutes les eaux? Que ce soit la mer, la lagune, les fleuves qu'on a, les marigots qu'on a. Est-ce qu'on peut faire l'aquaculture? Si oui, sinon, quelles sont les conditions et les critères?
Oh, les critères sont nombreux. Tout dépend en fait de ce que vous avez. En général, le poisson, il a besoin d'eau. Maintenant, les modes d'élevage, il y en a plusieurs. Tout dépend de l'espèce. L'espèce où nous avons mieux maîtrisé le mode d'élevage, c'est le tilapia. Et c'est l'un des poissons les plus consommés d'ailleurs. Le tilapia, qui est consommé à hauteur de 70 000 tonnes annuellement. Alors, c'est un poisson qui a besoin d'eau et qui a besoin d'une eau qui a de l'oxygène. Donc, toutes les eaux que nous avons peuvent être utilisées pour l'aquaculture. Les modes d'élevage, vous allez créer des étangs, vous allez créer des bassins, vous allez pomper l'eau, ou bien sur un plan d'eau, si pour autant ce plan d'eau a des courants avec l'oxygène, vous pouvez y mettre ce qu'on appelle des cages flottantes. Donc, là où il y a l'eau, effectivement, l'aquaculture est possible. Bien entendu, il y a des modes d'exploitation qui prendront en compte les conditions que vous avez. Mais l'avantage, c'est que si vous êtes à côté d'un plan d'eau, vous mettez une pompe, vous tirez l'eau, vous mettez ça dans ce bassin, vous renouvelez l'eau parce que le poisson, il a besoin d'oxygène. Donc, vous renouvelez cette eau et voilà, vous avez votre opération aquacole. Donc, elle peut se faire sous toutes ses formes.
Alors, combien de temps dure la formation de quelqu'un qui veut s'intéresser au secteur, qui ne connaît pas, qui n'a pas d'informations et qui veut apprendre et qui veut donc rentrer dans ce secteur-là? Combien de temps ça dure et comment on s'y prend?
Tout à fait. La durée varie. Hein. Ça dépend du pan du secteur dans lequel la personne s'insère. Comme je disais, c'est toute une chaîne de valeur. Toute une chaîne de valeur, depuis la production elle-même du poisson jusqu'à sa commercialisation. Donc, on peut se positionner dans un pan de la chaîne. Il y a aussi tout ce qui est chaîne de froid, etc. En ce qui concerne la production, puisque c'est ça qu'on veut faire développer, vous savez, la production, c'est la première chose. Il faut d'abord produire et tous les autres maillons de la chaîne viennent se greffer autour de cela. Dès qu'on a le poisson, maintenant, on peut avoir tous les autres maillons facilement. Donc, pour la production, au minimum, une formation qualifiante de 2 mois. Ça suffit.
Avons-nous des écoles ici?
Et nous avons des écoles. Par ailleurs, je vous parlais de sites de démonstration. L'un de nos sites, c'est à Koubi, CISE, à l'école de spécialisation en eau continentale. Voilà, pêche et pisciculture en eau continentale, l'ESPEC. Quand vous regardez sur Internet, vous allez retrouver ça très facilement. Et c'est une école de formation, en formation à Lutte. Donc, ils y forment des BTS sur une période de 2 ans. Et ces jeunes-là sortent avec une formation théorique, mais aussi une formation très pratique. Parce qu'au sein de cette école, il y a des étangs. Et il y a aussi les étangs qui sont sous la gestion, la coordination du PSTACI. Il y a à peu près 92 étangs. Donc, une trentaine pour l'école et 62 pour le PSTACI. Donc, ces jeunes-là ont également l'opportunité de venir en stagiaire sur le site du PSTACI, où nous pratiquons l'aquaculture de manière industrielle. Donc, ça leur donne une formation non seulement diplômante, mais aussi qualifiante. Mais pour comprendre la mécanique, un jeune n'est pas obligé de faire cette formation parce qu'il peut venir également directement en stage, avoir une formation qualifiante pour 2 mois sur site. Parce qu'on va vous apprendre comment tenir le poisson. On va vous montrer comment donner les aliments. Voilà, et ça vous donne les rudiments de base. Après, bien entendu, une fois que vous avez les rudiments de base, il faudra vous former davantage à travers d'autres cadres de formation. Et moi-même, j'inviterai même les instituts de formation à pouvoir augmenter, mais élargir leur cursus de manière à ce que plus de gens puissent se former dans l'aquaculture. Nous en avons deux aujourd'hui au plan national, on pourra en avoir plus. Voilà, qui pourraient faire justement cette formation théorique. Et en appui avec le PSTACI, avec aussi des acteurs privés, ces jeunes-là qui vont être formés pourront avoir un cadre où ils pourront justement mener des stages.
Alors, vous dites que vous avez deux stations de démonstration qui sont au centre du pays pratiquement. Mmh. On sait qu'en Côte d'Ivoire, les eaux sont partout. Pourquoi vous êtes simplement au centre ?
La Côte d'Ivoire a investi dans l'aquaculture depuis les années 70, je le disais tantôt. Un peu partout, est, ouest, nord, sud. Il était important pour nous de capitaliser sur ces investissements. Beaucoup de sites ont été abandonnés, malheureusement, suite aux tensions économiques que nous avons eues sur plusieurs décennies. Donc, on ne voulait pas créer un site de nouveau. Donc, nous sommes appuyés sur ces deux sites où l'État avait déjà fait des investissements pour démarrer. Koubi, bon, pour moi, c'était simple. C'est une école. La première chose que nous devons faire, c'est de former. Donc, étant déjà à l'école et en mettant en place une ferme de niveau industriel à l'école, ça donne déjà tous les rudiments nécessaires. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, nous sommes allés à Loka, parce que là, on y trouvait une éclosérie qui, au moment où nous sommes arrivés, produisait à peu près 500 000 tonnes d'alevins par an.
Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs ce que c'est qu'une éclosérie ?
Alors, l'éclosérie, c'est là où on produit, pour dire simple, les bébés poissons. Donc, ils sortent des œufs qui deviennent des larves, qui éventuellement deviennent des alevins. Donc, l'éclosérie, parce qu'il y a deux choses. Il y a la reproduction, donc de faire sortir les larves, et les œufs et les alevins. Et il y a ce qu'on appelle le grossissement. Parce qu'une fois que vous avez les bébés poissons, maintenant vous les prenez pour vous les faire grossir. C'est deux activités différentes et c'est une activité assez complexe. Donc une éclosérie est spécialisée dans la production des alevins. Ouais. Donc, et c'est ce qu'elle faisait à 500 000 tonnes. Et depuis notre arrivée, nous sommes aujourd'hui à une capacité minimale de 3 à 4 millions d'alevins par an. Donc, on peut même aller plus, mais on doit aller vraiment par phase, de façon graduelle, de manière à ce que l'écosystème puisse les absorber. Donc, la production d'alevins par des écloseries, et dans la stratégie du PSTACI, c'est d'avoir des écloseries nationales publiques, mais aussi privées. Donc, la stratégie, c'est que... Et on ne veut pas que tout le monde se lance forcément dans la production des alevins, parce que c'est assez complexe. Mais par contre, si les alevins sont produits, un aquaculteur prend ses alevins, il les achète et il les fait grossir et il rentre dans ses fonds très rapidement.
Amis auditeurs, vous êtes à l'écoute de la grande interview et dans le cadre de cette émission La Grande Interview, nous recevons M. Modibo Samake. Il est le coordonnateur général du PSTACI, entendu le programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Monsieur le coordonnateur, autre préoccupation? Les poissons mangent quoi ? Parce que chaque fois, dans vos interventions, vous nous dites que ça coûte cher les aliments de poissons et que ça représente plus de 70% des charges de fonctionnement de l'activité de l'aquaculture ou de l'aquacole. Alors, ils mangent quoi le poisson réellement ? Le poisson d'élevage, ils mangent quoi ?
Bon, ils mangent, dans le cas de l'aquaculture, ils mangent des aliments qui proviennent d'une certaine formulation, qui comprend généralement du maïs, du soja et un apport en protéines. Protéines qui peut venir des poissons, la poudre de poisson, la farine de poisson. Donc essentiellement, voici l'aliment que le poisson mange. La particularité du tilapia, c'est qu'il mange à la surface de l'eau. Donc, lorsque ces aliments sont formulés, il faut les rendre flottants. Et c'est ça la particularité. Sinon, ce qui va se passer, c'est que si les aliments ne flottent pas, vous jetez, le poisson n'a pas le temps de le manger, l'aliment, il va et se repose au bas de l'eau, et ça crée d'autres problèmes, azote, etc. Bon, des voies plus autorisées peuvent donner des éléments sur ce que ça crée en termes de déchets. La particularité, c'est qu'il faut que ce soit un aliment flottant. Aujourd'hui, nous n'avons pas, au sein de la Côte d'Ivoire, d'usines opérationnels qui produisent du poisson, de l'aliment du poisson. Il y a déjà des acteurs qui ont décidé de faire cet investissement, mais pour ce faire, en termes de production, la Côte d'Ivoire doit atteindre une certaine masse critique pour que cette opération puisse être rentable. Donc, dans l'intérim, nous sommes obligés d'importer cet aliment. Voilà. Donc, cette formulation, elle est calibrée de manière à ce que le poisson puisse avoir tous les nutriments nécessaires comparable au poisson naturel, mais encore meilleur pour que ce poisson-là puisse atteindre le poids marchand assez rapidement.
Alors, mais les éléments que vous avez donnés tout à l'heure pour la consommation du poisson, on se rend compte que c'est du pain béni pour nous, puisque c'est le maïs, le sorgho, ce sont des choses que nous avons ici sur place et qu'on produit.
Oui, mais pas en quantité suffisante.
Ah, d'accord.
Pas en quantité suffisante, parce que ce n'est pas juste le poisson qui a besoin du maïs. Il y a les hommes. Mais il y a aussi le bovin, le secteur avicole.
Ouais.
Donc c'est, et quand on parle de chaîne de valeur, vous voyez que ça s'étend au-delà même du poisson. Ça s'étend au-delà même de l'aquaculture. L'aquaculture comprend également la production de ces ingrédients.
Mm-hmm.
Donc, des acteurs peuvent se lancer dans la production du maïs. Et ce maïs-là peut être utilisé pour tous les secteurs d'élevage.
Alors, mais à partir du moment où vous dites que le tissu des producteurs, si on peut s'exprimer ainsi, ou bien la quantité de la production ne représente même pas, puisqu'on est autour de, on est à moins de 10 000, je préfère dire ce chiffre-là comme ça, à moins de 1%, est-ce que c'est rentable de créer aujourd'hui une unité de transformation? Pour le privé, ce n'est pas forcément la rentabilité immédiate, ça va être difficile. Mais est-ce que l'État lui-même ne peut pas créer ça, puisqu'il y a un besoin et l'État est optimiste là-dessus pour dire « je sais que ça va décoller, donc je crée cette unité ». Est-ce qu'il n'y a pas cette possibilité-là?
Bon, la possibilité existe, mais vous savez... Ce qui serait plus facile pour l'État, c'est de susciter l'investissement privé.
Mmh.
Et comment est-ce qu'on le suscite? À travers des incitations, réduction, pour l'investissement. Et parce que le privé, c'est mieux que l'État rendre une activité prospère. Mmh. C'est vrai que l'État a sa part, mais l'État a son rôle régalien, l'État sait quoi faire. Et on ne veut pas se positionner en concurrent au secteur privé. Bien au contraire, on veut que le secteur privé soit prospère, parce qu'ils ont une capacité d'exécution qui est beaucoup plus rapide que l'État. Vous voyez. Donc, et effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas rentable. Mais là où on doit agir, c'est d'augmenter la production. Et une fois que nous augmentons la production, ce qui veut dire également qu'on va augmenter l'importation du poisson. Mais c'est pour ça, dans un délai qu'on se donne, on se dit que, bon, en tant qu'État, on va créer les conditions pour que l'aliment importé puisse être libéré des taxes, des droits de douane, etc., pour que le coût de l'aliment soit le plus bas possible. Et si l'aliment est le plus bas possible et il représente 70% du coût d'exploitation, vous voyez que ça permettrait aux acteurs de produire davantage. Et plus ils produisent, vous voyez, c'est le feu et la poule. Hein. Éventuellement, quand on va atteindre certaines marques, pour sortir justement de cet engrenage œuf et poule, c'est les incitations. Oui, les incitations à l'importation, les incitations à travers la réduction des taxes. Donc, on a une proposition d'ordonnance qui a été transmise au gouvernement pour qu'on puisse défiscaliser l'aliment pour une période, de manière à ce qu'on puisse atteindre une masse critique et ensuite, on peut commencer à produire localement.
Cette réforme que vous êtes en train d'actionner, de dérouler, est-elle complémentaire avec la pêche industrielle demain ou bien ça va être des concurrents? Parce que tel que nous observons, on se rend compte que la production nationale va tellement prendre de l'ampleur avec tout ce que vous êtes en train de rouler que naturellement, les importations risquent de baisser. Et du coup, ça fait beaucoup d'argent pour les acteurs locaux.
Ah ben c'est ce qu'on veut.
Mm-hmm.
C'est ce qu'on veut. On veut remplacer totalement les importations. C'est plus de 400 milliards de nos francs qui sortent. Imaginez ces 400 milliards dans notre tissu économique. Mais les emplois, la richesse que ça crée, vous savez, on a cette notion que les éleveurs sont pauvres, etc. Mais si on regarde un peu dans d'autres pays, on fait des benchmarks, mais il y a des pays où les éleveurs s'en sortent très bien. L'aquaculture est une réponse à cela. Donc pour moi, oui, absolument, pas pour moi, mais je veux dire la vision même de l'État, c'est qu'on crée des riches en Côte d'Ivoire, dans l'élevage, dans l'agriculture, dans la transformation.
Des champions nationaux,
c'est ouais. de ça qu'il s'agit. Ouais. Ah non, moi, remplaçons autant que possible les importations. Maintenant, la pêche a ses limites. On va laisser les poissons se renouveler. Si on a beaucoup de poissons dans l'eau, c'est encore mieux. Mais on a besoin de se nourrir. Et la population ne fait que s'augmenter. Vous savez, lorsque Vision 2030 était en train d'être définie, on pensait qu'on serait à 30 millions d'habitants en 2030. Mais 2021 nous a démontré, à travers le recensement général de la population, que nous sommes déjà à 30 millions d'habitants. Enfin, 29,5. Bon, vous voyez que sur les 7 prochaines années, avec un taux de croissance de 2,8% annuellement en ce qui concerne la population, mais on va excéder les 30 millions. Donc, la pêche et la surpêche que nous voyons aujourd'hui, les tensions que nous avons, mais ne nous permettront pas de combler, de répondre aux besoins de l'Ivoirien qui est très demandeur du poisson.
Oui, il y a un défi. Je vous ai posé de façon expresse cette question parce qu'on sait que le secteur de la pêche est un secteur très, très difficile avec tous les lobbies et syndicats et les groupements d'intérêts, pour dire simplement, qui existent dans ce milieu. Nous osons croire que l'État va marquer vraiment son autorité à ce niveau-là pour que les choses puissent aller au mieux des intérêts des populations. Nous allons poursuivre cet échange, monsieur le coordonnateur Modibo Samake, pour parler des moyens qu'il faut. Aujourd'hui, je suis un jeune, je décide de me lancer dans l'aquaculture. Combien il me faut à peu près? J'ai besoin de combien pour me lancer dans cette activité?
Tout à fait, voilà. Tout à fait. Alors, on a fait ce calcul parce que je me doutais bien que vous allez me poser cette question, mais en réalité, je sais que c'est la même question que se pose chaque auditeur à cette émission. Alors, dans toute activité, il y a un coût d'entrée. Alors, les aménagements, dépendamment de ce que vous avez comme espace, un peu variés. Mais admettons que vous voulez aménager un étang piscicole. Donc, qui dit étang piscicole, on creuse dans la terre, on désinfecte avec la chaux. Il y a une certaine profondeur, il y a des canalisations, donc il y a des tuyaux, des moines. Bon, c'est un peu technique hein, lorsqu'on aménage un étang. Mais l'aménagement d'un étang de 500 mètres carrés peut vous coûter en moyenne 1 400 000. Donc ça, c'est le point de départ. Vous avez un étang de 500 mètres carrés à partir duquel vous pouvez maintenant commencer votre activité. Il y a également des bassins hors sol sur lesquels vous pouvez investir. Mais pour commencer l'aquaculture, on peut commencer avec 1 400 000.
1 400 000. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais bon, encore faudrait-il qu'il y ait des structures pour accompagner des jeunes. Dans ce sens-là, est-ce que vous avez pensé aussi aux banques, ne serait-ce que servir de caution aux jeunes, donner les ressources, et puis quitte après, s'ils commencent à vendre les produits de la pêche, qu'ils puissent rembourser leurs crédits?
Oui, vous avez parlé de structures qui accompagnent. Ouais. Avant même d'arriver aux banques au financement, il y a des structures techniques, il y a des aménagistes. Et je voudrais même relever cela, c'est important, parce que au niveau de nos sites, vous savez, l'État avait fait des investissements, 62 étangs qui avaient été totalement délaissés. Donc pendant cette période, nous avons formé des jeunes, des stagiaires, sur l'aménagement. Mais ces jeunes-là, aujourd'hui, ils viennent en plus aux aménagistes existants et avec des capacités professionnelles, des aptitudes professionnelles. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, le financement, c'est le nerf de la guerre. Donc nous sensibilisons, vous savez, tout élevage est risqué. Vous avez des êtres vivants, quelque chose peut arriver et puis vous perdez votre production. Donc effectivement, nous avons discuté et nous discutons régulièrement avec les institutions financières pour accompagner le secteur et identifier avec eux les éléments de risque que nous pouvons lever. Il y a aujourd'hui des institutions qui accompagnent des coopératives. Et c'est dans cela que nous pensons qu'on peut atteindre. Si vous voulez investir tout seul, le risque est plus important et les institutions financières risquent de ne pas vous accompagner. Donc nous encourageons les gens à se mettre en coopérative. Et en ce moment-là, l'institution financière accompagne la coopérative. Il y a aussi une interprofession qui a été créée. Donc, vous voyez, donc de manière à ce que vous ne soyez pas seul, c'est la meilleure façon de commencer.
Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur, sur cette précision. Alors, j'allais vous demander, souvent, de façon triviale, on se demande, mais est-ce que le poisson qui est élevé Et comme ça, à défaut du poisson naturel que Dieu a mis dans l'eau, là, est-ce que côté nutritif, qui est bon que qui? Quel est...
Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Alors, un poisson dans son milieu naturel, vous ne maîtrisez pas forcément les autres éléments qui peuvent y être. Malheureusement, on fait face aujourd'hui dans notre pays à un phénomène qui est l'orpaillage clandestin. Donc ces poissons qui sont dans l'eau naturelle peuvent être affectés non seulement par cela, mais aussi par des activités agricoles. Les activités où peut-être on utilise pesticides, on utilise certains engrais qui apportent des produits chimiques dans l'eau. Donc le poisson naturel, il est différent dans le sens qu'il est beaucoup plus ferme. Parce que c'est un poisson qui doit se battre pour survivre. Par contre, le poisson d'élevage, c'est dans un environnement contrôlé, avec des formulations d'aliments qui lui donnent tous les nutriments nécessaires pour être vraiment un poisson viable. En matière de goût, je pense que c'est à l'appréciation des uns des autres. Il y a des gens qui aiment un peu le goût du poisson naturel, voilà, un peu fort. Le poisson d'élevage, il est tout aussi doux. Moi, dans mon expérience personnelle, le poisson d'élevage est très bon.
Voilà, c'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette interview. Mais avant de nous séparer, monsieur le coordonnateur Samake, du PESTACI, le programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Nous allons vous permettre de dire votre mot de fin.
Alors, vraiment, monsieur Diacté, je voudrais encore une fois vous remercier pour cette lucarne que vous m'offrez, cette tribune, de pouvoir m'entretenir avec vos auditeurs. J'espère avoir démontré largement l'intérêt pour ce secteur, pour l'aquaculture, qui, ma foi, demeure un système de production qui a le taux de croissance le plus élevé au monde. Et ça, ça a été démontré par plusieurs. Donc, c'est un moyen efficace, vraiment, pour lutter contre la pauvreté et créer vraiment un revenu pour les populations les plus vulnérables, les jeunes et les femmes. Donc, mon appel, c'est vraiment que les jeunes s'y donnent, que les femmes s'y donnent et que la population s'intéresse. C'est un secteur qui devait intéresser toute la population. Ça nous concerne, nous tous. Il s'agit de souveraineté alimentaire. Il s'agit d'assurer à l'Ivoirien un repas nutritif avec toutes les protéines. Donc vraiment, le PESTACI se bat avec vraiment l'aide du gouvernement. Il est mis en œuvre pour attirer les investissements du secteur privé. Donc vous, population, mais aussi pour que les bailleurs de fonds, les institutions financières puissent accompagner de manière à ce que cette chaîne de valeur soit développée de façon efficace et combler ce déficit. C'est ça l'enjeu. On veut combler ce déficit. Donc pour nous, développer l'aquaculture, c'est un secteur porteur d'espoir pour l'économie ivoirienne parce qu'il est sous-exploité et il a des potentialités énormes et il peut procurer une source de revenus pérenne pour notre jeunesse en quête d'espoir, d'intégration dans une société qui est en pleine mutation. Donc c'est important et merci vraiment monsieur Diacté, merci au gouvernement, merci à monsieur le ministre pour tout le soutien que vous nous donnez. Il est important que le PESTACI, surtout l'aquaculture, soit un succès pour développer notre pays.
Merci beaucoup à vous, monsieur le coordonnateur général du PESTACI. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation, monsieur Modibo Samake. Donc, vous êtes le coordonnateur général de ce programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. On va se donner rendez-vous dans un an pour voir comment les choses ont bougé d'ici là. Mais nous vous suivrons tout au long de l'année parce que n'oublions pas que nous sommes cette année, l'année de la jeunesse, et il faut que de plus en plus les jeunes puissent s'intéresser à ces secteurs-là qui sont, comme vous l'avez dit vous-même, des secteurs à forte capacité de production et de richesse, et surtout d'insertion socio-professionnelle pour les jeunes. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de nous suivre. À mes auditeurs, c'est la fin de la grande interview et nous avons reçu Monsieur Samake Modibo. Monsieur Modibo Samake, il est le coordonnateur général du PESTACI. Il était sur notre plateau pour nous parler de son programme et des défis qu'ils essaient de relever à travers donc ce programme. Merci beaucoup et à très très bientôt sur Radio de la Paix.
Ben Diakité. Réalisation Antoine Kouassi.
Vous venez de suivre la grande interview.